on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins et de voisines. Vieille, le mot lui-même est tabou, on lui préfère un vocabulaire plus politiquement correct. Femme mûre, senior ou encore aînée. Alors que nos sociétés vieillissent, passé 50 ans, les femmes sont moins regardées, moins considérées, souvent ignorées, voire invisibilisées. Au cinéma, par exemple, elle ne représente que 8% des rôles principaux. À 50 ans, un acteur peut incarner la quintessence du charme. Au même âge, une actrice se voit rarement proposer de jouer les cougars. Pourtant, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se rebiffer contre les dictats d'une société qui n'aime guère les rides et les cheveux blancs. Elles se découvrent une liberté nouvelle et prouvent que la ménopause, dont on ose si peu parler, n'empêche pas d'entreprendre, de vibrer et de séduire. Cette émancipation qui rend parfois méfiant vis-à-vis de ces femmes mûres. Pourquoi essaie-t-on de cacher la vieillesse? Comment peut-on s'affranchir du carcan du jeunisme? Bref, la revanche des vieilles, entre guillemets, a-t-elle sonné? Marie Charelle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, romancière, et vous venez de publier « Qui a peur des vieilles ?» aux éditions Les Pérégrines. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Roca, qui nous parlera des adjumas, ces femmes d'un certain âge qui, malgré leur rôle économique très actif, sont déconsidérées en Corée. Et puis, nous nous pencherons, grâce à un reportage de Sarah Cozzolino, sur la situation des femmes de plus de 50 ans au Brésil, pays champion de la chirurgie esthétique, qui voue au corps un véritable culte.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble.
C'est votre vie au quotidien.
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
Marie Charelle, pourquoi avoir choisi de donner à votre essai ce titre quelque peu provocateur, Qui a peur des vieilles?
Ah, c'est une pointe d'humour, mais je pense que ça met le doigt sur ce vrai sujet qui est cette question, comme vous l'avez dit, de l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans, qu'on voit moins, qu'on déconsidère. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'elles? Et si oui, pourquoi et qui? Et je crois que derrière cette question, on touche en fait à beaucoup de choses, beaucoup plus larges que la question de l'âge des femmes. On touche à la question de la place des femmes en général.
Alors le mot vieille est tabou, la vieillesse chez les femmes est un sujet tabou. Avez-vous eu du mal à convaincre un éditeur?
Alors non, pas l'éditeur, puisqu'on s'est tout de suite, très vite trouvé sur ce sujet en fait qui m'habitait, auquel je cogitais depuis longtemps, et puis l'éditrice a tout de suite eu envie de ce sujet parce que je pense que comme moi, elle a vu ce qu'il y avait derrière tout ça, la question des normes et un sujet beaucoup plus large que simplement celui de la vieillesse, qui est déjà en soi un sujet conséquent.
Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ce livre?
Il y en a eu plusieurs. Et il y en a un qui est fondateur, comme j'explique au début du livre, c'est ce souvenir qui est revenu me visiter il y a quelques années, à savoir celui de ma grand-mère.
Léa.
Qui était une grand-mère comme on les aime. Elle était extrêmement dynamique, elle nous emmenait faire des cabanes en forêt, elle était casse-cou, elle m'impressionnait beaucoup, elle envoyait tout le monde balader quand ça ne lui plaisait pas, et je l'admirais, et je me disais, je veux être ça, je veux être comme elle. Et puis, les années passant, j'ai un petit peu oublié tout ça, et j'ai plutôt été prise moi aussi par ce carcan et par cette idée que la vieillesse, c'est la déchéance, que les rides, c'est le début de la fin. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais au fait, tu rêvais d'être Léa. Alors où est passée cette envie et ce désir, et qu'est-ce que je voyais chez elle qui m'inspirait aussi fort? C'est un peu ce qui a déclenché cette réflexion il y a plusieurs années, qui a abouti à ce livre.
Alors, est-ce que la scène qui ouvre le livre, la scène chez votre dermatologue, est imaginée ou bien est-ce que c'est une scène qui s'est réellement produite?
Ah, c'est une scène réelle. je ne suis pas forcément fière. Et puis, j'ai décidé de m'en amuser. C'est pour ça que je l'ai raconté au début du livre. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans ça. À savoir, à un moment, on fait une fixation sur une ride. Et c'est toujours les fixations sur le corps, hein, les femmes, les hommes aussi, évidemment, mais dans une moindre mesure, je pense. Et à un moment, je ne supportais plus cette ride entre mes deux sourcils, qui est là, qui est bien présente,
la ride du lion.
Je me disais, il faut absolument que je les fasse, ça ira beaucoup mieux. Et donc, je suis allée voir un dermatologue, et à la dernière nuit, je me suis dit, mais non. Mais qu'est-ce que Léa dirait? Elle dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais avoir honte. Et donc, je ne l'ai pas fait. Et j'entendais vraiment Léa me dire, mais non, c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, pas toi.
Alors, vous êtes partie en courant et vous vous êtes attaquée à la rédaction du livre.
Voilà, bah j'accumulais plusieurs choses depuis un petit moment déjà de lecture. Je tournais autour sans vraiment avoir mis le doigt sur ça et avoir fait le lien avec... avec Léa et tout ce qu'on voit, nous, aujourd'hui aussi, au cinéma, dans la presse, sur les affiches. Et il y a un moment, il m'a semblé que là, il y avait quelque chose à creuser de pertinent.
Mais les femmes, comme votre dermatologue, à qui on ne peut plus donner un âge tellement elles sont tirées, liftées, repulpées, elles suscitent quel sentiment chez vous ?
Alors, c'est très ambivalent et ce n'est pas un jugement de valeur ni une critique sur la chirurgie et l'usage de la chirurgie par certaines femmes. Je pense que chacune d'entre nous, et chacun aussi, parce que c'est vrai que les hommes aussi sont concernés par ces diktats-là, fait comme il peut et fait un petit peu sa sauce pour trouver sa place face à ces injonctions. Et je trouve qu'elles incarnent bien... ces injonctions contradictoires de « il faut être bien avec soi, il faut s'aimer tel qu'on est, mais en même temps il faut paraître jeune, éternellement jeune et mince », comme si c'était synonyme d'ailleurs, mince, jeune, belle. Et certaines femmes choisissent de faire la chirurgie, d'autres pas, d'autres travaillent beaucoup sur elles, d'autres font les deux. Je trouve que c'est très difficile de trouver comment faire, comment être et essayer d'être bien malgré tout. Je crois qu'il n'y a pas de recette magique, mais je trouve que c'est tout cela de quoi rendre fou ou folle.
À quel moment une femme bascule-t-elle dans le camp des vieilles, entre guillemets ?
Alors ça, c'est une grande question que je n'ai pas tranchée dans le bouquin, parce que je pense qu'elle est intranchable. À partir de quel âge on est vieille ? C'est très subjectif, ça dépend évidemment de beaucoup de critères de l'état de santé, du pays, de l'époque. Évidemment, il y a une époque où on vivait beaucoup moins vieux. L'espérance de vie s'allonge de plus en plus. Donc, on peut imaginer qu'on est considéré comme vieux de plus en plus tard, mais pas tellement. Et puis, évidemment, ça dépend de l'âge aussi. Quand on est très jeune, on a tendance à considérer comme vieux toute personne plus âgée que soi. Et voilà, donc,
mais est-ce que la ménopause est quand même un moment charnière ?
Il y a ce moment charnière et c'est ce qui
est... qu'elle peut survenir à 50 ans, comme à 55, comme presque à 60 même.
Et c'est ça qui est très étonnant, je trouve, quand on prend un peu de recul, parce que c'est toujours ce moment de bascule dans le regard social autour de la cinquantaine, donc de la ménopause, comme s'il se passait quelque chose, comme si les femmes tombaient dans quelque chose de quoi ? C'est la fin de la fertilité ? Et alors ? Et je trouve ça assez fou. Qu'il y a encore des choses pas vraiment dénouées dans le regard social autour de la ménopause et la fin de la fertilité, alors que ça fait un moment que les femmes contrôlent leur fertilité. Donc c'est comme si quelque chose n'allait pas aussi vite que l'évolution des mœurs ou la façon dont les femmes se vivent elles-mêmes dans cette idée, cette crispation autour de ça y est, les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants à 50 ans, alors que dans les faits, elles... Tout ça est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus souple et beaucoup plus maîtrisé qu'il y a 100 ans. Donc, ouais, il y a des espèces d'archaïsmes comme ça qui...
Parce que derrière, il y a l'idée que les femmes ménopausées, donc ne pouvant plus faire d'enfants, n'auraient plus d'utilité sociale. C'est cette idée qui serait ancrée quelque part dans l'inconscient collectif ?
Ce qui était le cas quand les femmes avaient beaucoup moins accès au marché du travail et étaient... d'abord un parti et avait d'abord pour fonction de s'occuper des tâches domestiques, de faire des enfants. Donc oui, à un moment, elle perdait cette utilité-là.
Mais cette idée que reprennent certains historiens ou sociologues, est-ce qu'elle ne relève pas plutôt des réflexes patriarcaux ?
Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Et à propos de réflexes patriarcaux, vous racontez cette anecdote dans votre livre où un économiste que vous venez d'interviewer non seulement vous demande votre âge, mais se permet ensuite de vous donner un conseil. Racontez.
Oui, bah là, j'en ai raconté celle-là, mais ça arrivait plusieurs fois que des économistes ou des experts se permettent de me dire « Mais est-ce que vous avez déjà des enfants ? N'en faites pas. » Vous ne pourrez plus avoir de carrière, ou alors dépêchez-vous, ou des remarques comme ça, qui moi me choquaient, parce que je me disais, mais est-ce qu'ils demandent ça à un confrère homme de mon âge ? Est-ce qu'ils ont des enfants ? Ou ça va être un frein à votre carrière ? Ou dépêchez-vous d'en faire, ou n'en faites surtout pas. Je trouve que c'est à la fois très intrusif, très grossier, et très sexiste, en fait.
À propos de la maternité, est-ce que les femmes ont des enfants de plus en plus tard pour inconsciemment retarder leur vieillesse? Parce que ça donne beaucoup d'énergie quand on devient mère à 40 ans, 45 ans.
Je ne sais pas si c'est pour retarder la vieillesse ou plutôt pour construire avant tout ce qu'elles peuvent au niveau professionnel, notamment parce qu'on sait, et là aussi c'est les chiffres qui montrent que les grossesses ont encore des conséquences sur la carrière derrière, même si là aussi les lignes bougent, il y a de la législation, il y a des efforts, mais ça aussi ça reste fort. Et puis les études se prolongent de plus en plus aussi, donc on rentre plus tard sur le marché du travail, donc c'est aussi logique dans l'évolution de ces mœurs-là que les femmes fassent des enfants plus tard.
Vous parliez tout à l'heure de l'espérance de vie des femmes en France. En 2019, elle était de 85 ans et 6 mois contre 79 ans et 8 mois pour les hommes. Et l'on apprend toujours dans votre livre que parmi les 153 super centenaires, c'est-à-dire âgés de plus de 110 ans, recensés dans le monde, figurent seulement 3 hommes. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question « Pourquoi les femmes vivent-elles plus longtemps que les hommes ?»
Alors, les scientifiques ont peut-être approfondi le sujet depuis que j'ai écrit ce chapitre-là il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux, en fait, dans cette longévité. On a longtemps dit que c'était peut-être des raisons hormonales, peut-être des raisons de mode de vie, peut-être... Et en fait, on ne sait pas très bien l'expliquer, cette longévité-là. Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les autres. Il y a aussi peut-être des explications sociétales. On dit qu'elles sont plus intégrées dans un réseau de connexions familiales et amicales, que ça fait vivre plus longtemps. Mais je crois qu'il y a un vrai mystère autour de ça.
Alors, combien de femmes avez-vous rencontrées pour écrire ce livre et comment les avez-vous sélectionnées?
Ah, j'ai pas compté, mais beaucoup. Avec un peu une double démarche, je suis allée chercher à la fois des penseuses, des expertes, des femmes qui ont réfléchi sur ces questions-là, des personnalités publiques, des comédiennes. Beaucoup m'ont pas répondu. Beaucoup m'ont répondu aussi, et c'était parfois des surprises, parce qu'il y avait aussi ce côté « tiens, et si j'essayais cette personne ?» J'ai contacté Marie-Georges Buffet, par exemple. Je me suis dit « tiens, une femme en politique, elle est là depuis longtemps, elle
ancienne
a beaucoup d'expérience, ancienne ministre des Sports, elle a certainement des choses à dire aussi, elle avait beaucoup de choses intéressantes à dire. » Donc j'ai eu des surprises aussi comme ça dans les réponses. Et puis j'ai interrogé aussi beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, de « tous les jours », entre guillemets, que j'ai pu contacter soit par mon réseau de lectrices, des amis d'amis. Voilà, j'ai lancé plein j'ai l'impression de lancer plein de graines comme ça pendant plusieurs mois et de récolter après ce qui revenait. Et ça a toujours été très enrichissant d'avoir tous ces regards avec beaucoup de similitudes dans les témoignages, parfois des contradictions. Et il y a aussi beaucoup de positif et de négatif, tout cela est mêlé et parfois assez compliqué, avec pas de généralité, même s'il y a des points communs assez forts aussi qui remontent.
Marie Charelle, on va revenir à votre livre dans un instant, mais je vous propose maintenant de partir pour le Brésil et la ville de Rio de Janeiro, une ville où la chaleur et la plage encouragent les corps à s'exposer à tous les âges. Si les cariocas, les habitants de Rio, sont adeptes de la chirurgie esthétique ou encore des salles de sport dès leur plus jeune âge, ils ne sont pas les seuls à prendre soin de leur corps et de leur santé. Sara Cozzolino s'est rendue à un cours de sport pour le troisième âge, comme il en fleurit un peu partout et gratuitement dans la ville.
Paro, 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 salta, 4, 3, 2, bon dia.
Vendredi matin, il est 7h30, on est sur une petite place et il y a une vingtaine de femmes entre 60 et 70 ans qui s'entraînent, qui suivent une prof de sport. Donc elles ont des élastiques à la main et puis elles montent les genoux, puis elles font des squats.
Je m'appelle Regina Boto. À 9h, je commence à travailler, mais tous les matins, je suis ici, de lundi au vendredi. Toujours, ça fait une différence énorme. On reste plus mobile pour faire des choses et tout ça, parce que c'est arrivé déjà un petit moment, parce que comme j'ai un genou qui est déjà opéré, c'est fait opérer, j'avais une mobilité un petit peu lentement et tout ça, il y avait des douleurs et tout ça, et avec le travail, la force, les choses comme ça, tout ça marche bien maintenant, c'est tout très très bien.
nome é Josefa.
Je m'appelle Josefa.
Tenho 71 anos.
J'ai 71 ans.
Já faço a ginástica.
Je fais de la gymnastique depuis 20 ans déjà. Grâce à Dieu, j'ai une très bonne mobilité, une très bonne santé. Ici, c'est vraiment super. C'est un peu comme la famille, vous savez. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. C'est vraiment sympa. Il y a même des femmes qui ont plus de 80 ans.
Moi, j'ai plus de 80 ans, grâce à Dieu. Et c'est bon pour la santé. Marcher, faire de l'exercice et faire des choses à la maison aussi. Il ne faut pas rester couché. C'est pas bien de rester couché.
Je m'appelle Gisèle Marie Sarmento Cardine. J'ai 53 ans et je suis professeure de sport. Je remarque une énorme amélioration par rapport au mouvement que ces femmes peuvent faire et à leur santé. Elles-mêmes me font ces retours par rapport aux tâches quotidiennes qu'elles font beaucoup plus facilement, par exemple. L'autre jour, une élève me disait qu'elle avait réussi à s'accroupir et que son fils avait été très impressionné. Il lui a demandé comment est-ce qu'elle pouvait réussir à s'accroupir alors qu'elle a plus de 70 ans. Et je vois que c'est un des nombreux bénéfices de ces cours, que ce soit socialement, physiquement ou mentalement, tout ça leur fait beaucoup de bien. Surtout avec cette pandémie, l'aspect social est très important. Et les exercices aussi, évidemment. Je pense que c'est un tout. Le lieu à l'air libre, l'énergie et la professeure.
Alterne aqui, ó, alterne. Eu acho que esse lance do clima, eu acho que tem influência. Esse clima tropical, de praia.
Je pense que le climat a une certaine influence. Le climat tropical, balnéaire, le fait qu'on expose davantage nos corps, je pense que ce n'est pas anodin. Avec les exercices, elles commencent aussi à mieux s'alimenter et donc à maigrir. Donc le côté esthétique, oui, c'est important, mais je pense que la question de la santé, surtout en ce moment, c'est encore plus important.
Olha, para mim o importante é minha saúde. Se eu vou ficar com o corpo definido, se não vou, eu não estou esquentando minha cabeça com isso. Eu quero é...
Pour moi, la priorité, c'est vraiment la santé. Si je vais avoir des muscles un peu mieux définis ou non, ça, je ne m'en préoccupe pas trop. Ce que je veux, c'est me maintenir en forme. Je pense que plus on fait du sport, plus c'est sain. Notre circulation sanguine fonctionne mieux, notre cœur, nos poumons. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle fait aussi beaucoup d'étirements, d'exercices de respiration. Et la partie où on regarde le ciel et on remercie, remercier Dieu de pouvoir faire ça pour notre santé, c'est très important. Sans compter tous les bons conseils sur l'alimentation. Il y a des gens de la mairie qui viennent et nous orientent sur comment acheter des aliments sains, les conserver, etc. Et Gisèle nous donne toujours de bons conseils. Ce n'est pas seulement bien esthétiquement parlant, ça nous fait du bien en tant que personne. Je pars d'ici et je me sens disposée à aller travailler. Je me sens plus motivée en général.
Comment vous réagissez, Marie Charelle, à ce reportage à Rio de Sarah Cozzolino?
Ah, le Brésil, c'est un pays fascinant et compliqué sur les femmes. Avec l'usage des prothèses esthétiques assez fort et le regard sur le corps assez normé et qui est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on peut avoir un peu superficielle depuis la France, je crois. Mais c'est intéressant de voir ces femmes, évidemment, travailler. Et on peut dire que c'est universel d'essayer de garder la forme le plus tard possible. Mais le Brésil, je trouve, ne doit pas être un pays facile à vivre pour les femmes.
Alors en France, les femmes seraient périmées, entre guillemets, hein, toujours entre après 50 ans. Et pourtant, il n'y a sans doute jamais eu autant de publicité pour les cosmétiques anti-âge. Comment on explique ce paradoxe?
Déjà parce qu'il y a le basculement démographique se constate et s'accélère de plus en plus. C'est-à-dire qu'on est des pays de plus en plus vieux. C'est un marché aussi, le cosmétique pour les femmes et de plus en plus pour les hommes aussi. Donc c'est un marché, ce sont des personnes, des consommateurs qui ont du pouvoir d'achat parce que forcément c'est l'âge où on jouit de salaires plus élevés qu'en début de carrière. Donc oui, c'est aussi un marché en particulier. Alors c'est pas tout à fait la silver economy, là, quand même pas. C'est avant, mais le marché des cosmétiques est évidemment ciblé sur ces femmes-là. Et on voit aussi que c'est de plus en plus tôt parce que les crèmes et autres soins s'adressent aux femmes de plus en plus jeunes aussi.
T'as jamais vu une femme qui se... je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne, prends garde sous mon sang là.
La grenade, Clara Luciani, dans 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de la journaliste du Monde, Marie Charelle, qui publie « Qui a peur des vieilles ?» aux éditions Les Pérégrines. En France, 14 millions de femmes ont plus de 50 ans. Et d'après votre enquête, Marie Charelle, elles sont sous-représentées à la fois dans les médias et au cinéma. Pourquoi la société préfère-t-elle les ignorer ?
Parce que déjà, on a un penchant pour le jeunisme assez marqué dans nos sociétés depuis l'après-guerre, je pense, même s'il y a des racines plus anciennes et c'est difficile de dire quand tout cela a commencé, mais on préfère les jeunes pour des critères qu'on se dit esthétiques, mais c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ça, et en particulier les femmes jeunes. Et c'est vrai qu'il est indiscutable qu'il y a un traitement inégal entre les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 50 ans aux cheveux d'argent, qu'on associe beaucoup plus avec des images de charme, de sagesse, alors que la femme prenant de l'âge avec les cheveux blancs, même si ça change doucement, est plutôt associée avec des idées de « oh bah elle prend pas soin d'elle » ou un vocabulaire beaucoup plus péjoratif que ce qu'on peut avoir pour les hommes. Et dans au cinéma notamment, là, il y a la commission du tunnel de 50 ans, une association qui regarde ça de près et qui a vraiment sorti des chiffres et qui montre que les rôles s'amoindrissent à partir de 50 ans. Et c'est très, très net. Les chiffres sont vraiment parlants. Alors, il y a des femmes, évidemment, on peut les citer, les Catherine Deneuve, les Isabelle Huppert, il y a, mais elles sont peu, en fait, et on les compte sur les doigts de la main, ces femmes-là. Et toutes les autres comédiennes, par contre, ont tendance à disparaître. Et c'est un peu dommage, parce que les 14 millions de femmes ont peut-être un peu de mal à s'identifier à ces quelques femmes-là qui sont hors du commun et qui ne se retrouvent pas telles qu'elles sont à l'écran. Les hommes, un peu plus.
Alors, la comédienne qui a créé en 2015 le tunnel de la comédienne de 50 ans s'appelle Marina Thomé. Vous l'avez rencontrée. Est-ce qu'elle a réussi à faire bouger les lignes depuis 6 ans maintenant ou pas ?
Oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, en tout cas si on l'écoute. Et il y a beaucoup de réalisateurs, de producteurs, hommes et femmes, qui prennent conscience de ça et qu'ils disent, j'ai parlé à Fabrice Merouka, celui qui fait la Minute Vieille, donc lui il connaît bien le sujet puisqu'il il parle des vieilles dans sa série humoristique sur Arte, mais il dit que lui aussi il a pris conscience de ça. Il disait, quand à écouter les chiffres de la commission, il disait je me suis posé la question pour mon long métrage, quelle image je donne, quel rôle, est-ce que c'est 50-50, enfin ça déclenchait une prise de conscience. Après, il faut toujours du temps pour que les choses changent, mais il me semble en tout cas que les lignes bougent. Après de passer la prise de conscience aux actes, ça prend encore un peu de temps, mais voilà, il se passe des choses.
La Minute Vieille, on en écoute un extrait.
C'est un mec qui se la pète au volant de sa Ferrari.
Oui, il roule de fenêtre ouverte, il se la joue bien.
Ce jour-là, il est invité chez des amis et il est obligé de passer par un petit chemin de terre.
Et avec sa Ferrari, c'est pas simple, croyez-moi.
Et là, sur ce petit chemin, il voit un fermier arrêté avec le tracteur et sa vache.
Le fermier a l'air de galérer, alors il a pitié, il s'arrête.
Il demande s'il y a un souci. Le fermier dit oui, son tracteur est en panne.
En plus, il est attendu chez le vétérinaire car sa vache va pas bien.
Bref, c'est la galère.
Le mec sait pas trop quoi faire, il va pas prendre la vache de sa Ferrari.
Mais le fermier lui dit, il y a qu'à l'attacher au pare-choc arrière et rouler.
Et il commence à rouler, pas trop vite parce que la vache est derrière.
Le fermier lui dit qu'il peut accélérer, il peut même passer la troisième s'il veut.
Vous êtes sûr? Mais oui que je vous dis.
Alors il passe la troisième, ça va un peu plus vite.
Et la vache suit, c'est dingue.
Le fermier s'arrête pas là. Allez-y, passez la quatrième maintenant.
Vous êtes sûr? Ben oui, qui dit le fermier.
Alors le mec passe la quatrième et la vache suit en courant.
Ça fait un boucan pas possible avec sa cloche et ses sabots.
Le fermier en remet une couche et dit au gars de passer la cinquième.
Le mec n'ose pas, mais le fermier insiste. Passez la cinquième, nom de Dieu!
Alors le mec passe la cinquième et la vache suit en courant comme une folle.
Le mec regarde dans le rétro, il roule à plus de 140 à l'heure.
Et la vache, elle suit quand même.
Mais soudain, il voit un truc bizarre.
Dites, il y a votre vache qui tire la langue, là.
Quel côté, gauche ou droite?
Gauche.
Oh, c'est rien, ça. C'est qu'elle va doubler.
Le problème avec la Minute Vieille sur Arte, Marie Charelle, c'est que les comédiennes de renom ne se bousculent pas pour rejoindre le casting. Pourquoi ?
Ah bah parce qu'il y a le mot vieille. Je pense que c'est difficile d'être associée à ce mot-là encore, qui est quand même connoté assez péjorativement. Et puis qui est un peu éloigné de l'image de glamour du cinéma. Donc forcément, il faut un peu de recul, un peu d'autodérision. Et puis peut-être... jouer un peu avec son image, c'est pas forcément évident.
Alors vous avez interviewé Liliane Rovert, qui est au casting de La Minute Vieille, mais aussi de la série française 10%, qui s'est exportée dans le monde entier. Liliane Rovert a 90 ans et n'a jamais reçu autant de propositions de rôles. Comment le vit-elle ?
Elle le vit bien, je pense qu'elle est très heureuse de ça et elle profite de ça et elle parle très bien de son parcours. Il y a eu un moment où elle a eu un petit passage à vide, pas mal d'angoisse. Elle n'est plus du tout dans ça et elle est très heureuse d'avoir cette fin de carrière éblouissante et d'en profiter. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait raconté. Et c'est bien de voir des femmes comme elle à l'écran. Et ça ne peut que inspirer, espérons, d'autres femmes et d'autres réalisateurs.
Alors à propos de la sous-représentation des femmes au cinéma, vous prenez l'exemple du film américain Scandale de Jay Roach qui dénonçait le sexisme au sein de Fox News, la chaîne de télévision très conservatrice. Pourquoi l'affiche du film vous a-t-elle gênée ?
Elle m'a renvoyée à ce qu'on voit dans beaucoup de films américains avec des comédiennes. Qui ne paraissent pas à leur âge et qui défient les lois du temps. C'est très dur d'être une comédienne vieillissante à Hollywood, évidemment, plus qu'en France peut-être, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais ce qui est certain, c'est que de voir des comédiennes qui ne vieillissent pas, ça pose question.
Comment Nicole Kidman, par exemple hein.
Par exemple, c'est fou de se dire que les années passent et ne laissent pas de traces. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors, il y en a d'autres qui l'assume plus, et c'est encore une fois pas jeter la pierre aux femmes qui utilisent la chirurgie, mais pour toutes les jeunes femmes qui cherchent des modèles auxquels s'identifier, à qui elles peuvent ressembler, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et comme on est dans une société qui vieillit de plus en plus, où la majorité de la population sera bientôt, je ne sais plus quand se fait exactement le basculement, mais plus de 40, plus de 50 ans, c'est quand même problématique d'avoir des femmes à l'écran qui ne ressemblent pas aux vraies femmes. Ça pose question et puis c'est une injustice aussi quelque part.
Malaise aussi quand vous voyez l'affiche du film Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert.
Ah, c'est un peu pareil, c'est une incroyable comédienne, mais c'est difficile de s'identifier à elle malgré tout. Et là, sur cette affiche-là en particulier, moi dans le film, sur l'affiche, elle a pas l'air d'avoir 30 ans. Donc elle joue un rôle plus jeune que son âge dans le film, ce qui est bien, mais ça aurait été encore mieux si elle paraissait son âge.
Alors l'autre tabou qui accompagne la vieillesse et la vieillesse des femmes en particulier, c'est la sexualité. Tabou que fait voler en éclat la série américaine Grace et Frankie, avec dans les rôles principaux Jane Fonda et Lily Tomlin. Les deux comédiennes ont toutes les deux plus de 80 ans, bande-annonce.
Je m'appelle Grace Hanson.
Et voici Franti Bernstein.
Nous faisons des vibromasseurs spécialement conçus pour les femmes plus âgées. En prenant en compte tous leurs problèmes, comme...
Un tissu vaginal sensible.
Je ne crois pas qu'un prêt sur 10 ans soit très prudent.
Est-ce qu'on a l'air sénile et incapable de se souvenir de quoi que ce soit ?
Robert, enfin, on doit aller au travail.
Non, il n'y a pas d'âge pour ça, le fameux mot qui commence par un...
Le racisme.
Mais non, idiot, la retraite.
Je suis jeune, mes articulations sont souples.
Vous allez devoir l'opérer.
Je n'ai jamais eu de chirurgie.
Ah non, tu es sûre? Par exemple, au niveau de... un peu plus haut.
Non!
Marie Charelle, qu'est-ce qui rend cette série américaine audacieuse?
Bah, de parler de sexualité de vieille, de sécheresse vaginale, de vibromasseur, de tous les maux du corps, et avec beaucoup d'humour, et puis avec comme si tout cela était finalement assez banal, et c'est le cas. En tout cas, de le dire comme ça, avec, oui, avec beaucoup d'humour, et de mélanger tous ces thèmes-là dans une série grand public, c'est, je pense que ça peut contribuer à faire bouger les choses et à faire tomber les tabous, en fait, en en parlant tout simplement, et puis en rigolant, parce que pourquoi ne pas en rire aussi, mais tout en prenant cela quand même au sérieux.
La France serait prête pour ce genre de série, vous pensez ?
Je pense que les lignes bougent aussi dans les séries françaises, parce qu'on voit de plus en plus de rôles avec des personnages femmes de plus de 50 ans qui sont assez forts.
Pensez au capitaine Marlowe.
Oui, bah par exemple, mais ouais, je pense que de manière générale, dans les séries, les lignes bougent peut-être plus qu'au cinéma. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que oui, ça se déplaçait et qu'on commence à aborder ces sujets-là. On commence à voir des femmes plus proches des Françaises à l'écran et au petit écran.
Direction Séoul, à présent, en Corée du Sud, les femmes d'un certain âge ont un nom générique, Ajumma. À l'origine, ce terme désignait une femme mariée de plus de 40 ou 50 ans. Mais petit à petit, le mot est entré dans le langage courant pour désigner des femmes aux valeurs, aux codes de conduite et aux codes vestimentaires propres. Nicolas Roca, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Nicolas, d'où vient ce mot Ajumma ?
Eh bien, en réalité, c'est une expression qui est dérivée d'une formule de politesse initialement, ajumoni. En Corée du Sud, la hiérarchie sociale est très dépendante des écarts d'âge, et c'était une manière de s'adresser à une femme plus âgée que soi, une femme mariée, avec respect. Certains lui donnent l'équivalent en français de tante, mais cela ne rend pas réellement justice à la complexité du terme. Il est assez compliqué d'utiliser en coréen, car si l'on désigne une personne de cette façon à tort, elle peut facilement se vexer.
Alors pourquoi cette connotation péjorative ?
Eh bien, c'est un terme qui a ce qu'on appelle en coréen un niveau de politesse assez bas. Il y a trois façons différentes de s'exprimer. Chacune correspond à un degré de bienséance. Et vous l'aurez compris, le mot Ajumma fait partie de la catégorie des termes les moins polis. Et puis surtout, c'est un mot qui a évolué de son sens originel pour désigner de façon assez stéréotypée, assez péjorative, une manière de s'habiller, de s'exprimer, d'être finalement pour les femmes d'un certain âge et aussi d'une certaine classe sociale.
Alors, quelles sont les caractéristiques de ces Ajumma ?
Il est assez commun d'entendre les jeunes coréens et les moins jeunes aussi désignés par ce terme des femmes qui travaillent, par exemple, qui tiennent des restaurants, qui viennent globalement d'un milieu social assez modeste ou bien de la classe moyenne. Le mot est utilisé un peu comme un cliché, il généralise sur des situations sociales et des styles vestimentaires qui sont en réalité plus variés. Mais disons que dans une société où la façon de s'habiller est très très importante, c'est quinquagénaire ou c'est sexagénaire en tenue de sport avec des couleurs assez criardes, souvent avec une visière vissée sur la tête pour se protéger du soleil, eh bien, elle dénote dans le paysage de Séoul. On dit d'elle qu'elle parle fort, qu'elle se déplace toujours en groupe, qu'elles sont assez peu éduquées, qu'elles ne pensent qu'à elles et qu'elles ne comprennent pas vraiment la jeunesse. Il y a une étiquette assez négative donc qui leur colle à la peau, sans pour autant qu'il y ait une définition précise du terme qui est parfois utilisé un peu à tort et à travers pour désigner celles qui sont les filles et les petites filles de la génération de la guerre de Corée.
Et paradoxalement, elles ont de multiples étiquettes et elles sont assez vitales au fonctionnement de la société sud-coréenne.
Oui, exactement. Alors qu'elles représentaient durant la seconde partie du XXe siècle, au moment où la Corée s'est développée, des femmes au foyer qui géraient un peu le cadre familial. À la fin des années 90, elles ont commencé à travailler. En fait, au moment de la crise asiatique de 1997, elles sont entrées massivement dans le marché du travail et ont fait leur part pour soutenir l'économie sud-coréenne. Et en réalité, l'aspect péjoratif est un peu paradoxal parce que ces Ajumma, c'est un peu des superwomen. Elles sont au cœur de l'économie du pays. Elles gèrent des petites entreprises familiales, on l'a dit, des restaurants. Elles continuent de travailler travailler jusqu'à assez tard pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles gèrent le foyer, l'éducation des enfants. Elles représenteraient environ 20% de la population sud-coréenne et environ 40% des femmes du pays. Il faut savoir que ces adjuma, elles ont leur pendant masculin, les adjusi, qui sont toutefois eux bien moins emblématiques et le terme est aussi moins répandu.
Merci beaucoup Nicolas Roca pour ces précisions. Vous étiez en direct de Séoul. Marie Charelle, un mot sur ces adjuma. Est-ce qu'elles ressemblent à quelques-unes des femmes que vous avez rencontrées pour votre livre?
Il n'y a pas d'équivalent vraiment côté Europe à ce terme-là, mais ça m'a fait penser plutôt à ce qui repose aujourd'hui sur les femmes de 50 ans qu'on appelle parfois un peu la génération sandwich, qui doivent à 50, 60 ans et s'occuper de leurs parents plus âgés et des enfants ados ou étudiants et qui se retrouvent à devoir gérer beaucoup en plus de leur emploi, en plus du quotidien. Et c'est aussi un peu des superwoman de l'ombre.
Dans son livre « La voyageuse de nuit » qui était paru l'an dernier, Laure Adler abordait sans phare ce sujet tabou de la vieillesse. Vous la citez d'ailleurs dans votre livre. « Je veux penser mon âge », écrit-elle, « mais en même temps, plusieurs âges cohabitent dans le même instant. Je suis enfant quand, à quatre pattes avec mon petit-fils, je joue au Lego. Je suis ado lorsqu'à la radio, un tube de Johnny me donne envie de danser. Je suis toujours étudiante quand je m'installe pendant des heures dans une bibliothèque à la recherche d'archives inédites. » Pour Laure Adler, avancer en âge est une bénédiction, pas une malédiction. Mais la vieillesse s'apprend, dit-elle. On n'a pas que l'âge de ses artères, mais aussi un âge psychologique. Vous êtes d'accord avec elle ?
Oui, je crois que c'est Victor Hugo qui disait aussi « vieillir, c'est avoir tous les âges ». Je pense que la citation n'est pas exactement ça, mais beaucoup de femmes m'ont dit ça aussi. Elles disent « j'ai toujours 20 ans dans ma tête et en même temps, j'aimerais plus avoir 20 ans parce que j'ai appris tellement de choses et je me connais tellement mieux ». Et il y a souvent ces discours un peu ambivalents où je ne voudrais plus être ce que j'étais à 20 ans. C'était dur, maintenant je suis mieux. Donc, je crois que dans une femme, il y a toutes les femmes qu'elle a été dans le passé et c'est une richesse incroyable. Et toute cette expérience-là, tout ce qu'on peut apprendre en chemin et recueillir est important. Et je trouve que c'est dommage que les jeunes femmes ne profitent pas plus aussi de cette expérience-là des aînés. Je trouve que la transmission entre femmes est importante à cet égard-là et peut-être pour aller plus loin que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une vieillesse productive, de pouvoir continuer à travailler quand on a un métier qui vous passionne, comme c'est le cas de Laure Adler, qu'on peut entendre encore sur France Inter.
Absolument, c'est pas le cas pour tout le monde. Ça dépend de la vie professionnelle qu'on a eue et évidemment de la santé avec laquelle on vieillit. On peut pas faire de généralité. Quand on vieillit avec une moins bonne santé, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois aussi qu'il n'y a pas de révélation subite à 50 ou 60 ans ou plus sur la liberté qu'on peut avoir par rapport à aux enfants qui sont partis ou autres, que tout ça, c'est un chemin qui se construit avant, un chemin d'émancipation. Et d'où l'importance, je trouve, de la transmission pour arriver à être libre à cet âge-là. Et comment l'être le plus tôt possible, comment tout cela se travaille, se construit, je trouve que c'est une réflexion qu'il faut avoir et qui ne peut bouger que si les normes bougent aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile si on dévalorise l'âge.
Est-ce que le réveil d'un féminisme radical qu'on constate depuis quelques années a favorisé cette troisième voie entre puissance et apaisement que trouvent de plus en plus de femmes seniors ?
Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu l'influencer, mais ce qui est certain, c'est que le fait qu'on parle de plus en plus du corps des femmes aujourd'hui, avec tous les périls que ça peut représenter aussi, ne peut que faire avancer les sujets liés à la ménopause, donc au corps des femmes vieillissantes aussi. C'est en tout cas ce que la réflexion que j'avais en écrivant ce livre. Je me dis, puisqu'on parle des corps des femmes, on ne peut pas que parler du corps de la femme jeune, pas que parler de l'endométriose, des règles, de la grossesse. Il faut aussi parler du corps des femmes après. Quand elle vieillit, c'est aussi important et d'autant plus important que nous serons de plus en plus un pays de vieux et de vieilles.
Mais moi, je pensais aussi aux femmes qui ont le pouvoir, aux femmes dirigeantes. Est-ce que les femmes seniors dirigeantes, par exemple, sont de meilleures dirigeantes que les hommes ?
Alors ça, c'est la question La question piège, que je me suis amusée à creuser un petit peu, elle est difficile, je trouve, cette question, parce que il y a un espèce de politiquement correct aujourd'hui qui dit oui, les femmes font de meilleurs dirigeants parce qu'elles sont plus douces, plus concernées, dans l'empathie. Or, dire ça, c'est les renvoyer à leur statut de femme, à leur corps de mère. Est-ce qu'elles sont vraiment plus douces parce qu'elles sont femmes ou parce que dans leur carrière, on les a toujours collées aux affaires sociales, au ministère de la Santé,
de la famille.
Est-ce que tout ça, c'est de l'inné ou de l'acquis? Moi, je pense qu'il s'agit d'acquis plus que d'inné et qu'on pourra vraiment être dans l'égalité pour, comme le disait François Giroud, quand on aura des dirigeantes aussi mauvaises que les dirigeants et aussi brutaux que des Donald Trump ou autres. J'ai un peu des doutes que ça arrive un jour, mais pourquoi pas? Il y a aussi des femmes brutales et violentes.
Donc, c'est un hasard si les pays où la crise du coronavirus a été le mieux gérée, si ces pays étaient dirigés par des femmes. C'est ce que soulignait un article du magazine Forbes que vous reprenez dans votre livre.
Alors, ce n'est pas un hasard, mais je pense que ce n'est pas lié au fait qu'elles soient femmes. Je pense qu'il faut regarder les choses à l'envers. C'est si aujourd'hui, il y a plus de femmes dans les pays nordiques notamment, c'est parce que ce sont des pays plus égalitaires. Et c'est ça qui fait, je pense, que la crise, au moins au début, a pu être mieux gérée. C'est que c'est des pays plus transparents, plus égalitaires, où il y a des choses qui fonctionnent mieux et qui ont pu expliquer que la crise soit mieux gérée. Donc le fait que des femmes soient là, c'est parce que ces sociétés-là sont différentes et plus égalitaires à la base. Et c'est beaucoup plus intéressant de regarder par ce biais-là plutôt que de dire parce que ce sont des femmes, des superwomen, des super mamans et des super infirmières qui ont pu mieux s'occuper de leur pays.
Quelles sont les femmes qui vous ont le plus marqué au cours de votre enquête?
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les anonymes qui ont pu me parler. Certaines sont devenues des amies. J'étais très marquée par ce passage rapide que j'ai fait aussi au Théâtre du Soleil, de voir Ariane Mouchkin diriger sa troupe. C'était un rêve de la voir et de la voir vue en vrai. Faire ça, j'étais très impressionnée. Ça serait difficile de toutes les citer. J'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai pu avoir aussi avec Marina Tomé, Catherine Pifaretti du tunnel de 50 ans, parce qu'elles sont c'est vraiment le genre de femmes à qui moi j'aimerais ressembler. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de femmes inspirantes par leur parcours, avec des expériences très différentes, et c'était très riche, et ça m'a donné envie aussi de transmettre un peu de ça aux quelques jeunes femmes que j'ai pu croiser, plus jeunes que moi, qui me regardent certainement comme une vieille déjà, et qui me disaient « mais oh là là, ton sujet, mais moi ça me fait peur de vieillir ». Entendre des jeunes femmes de 20 ans dire ça, ça me fait un peu peur.
Mais en même temps, avoir travaillé sur le sujet, est-ce que maintenant vous avez moins d'appréhension par rapport à la vieillesse?
Certes, c'est surtout que ce que j'ai pu apprendre et comprendre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cette émancipation-là, elle se construit le plus tôt possible. Comment est-ce qu'on peut y réfléchir? Comment est-ce qu'on peut aussi être intelligemment dans la sororité? C'est un terme important qui est parfois un petit peu... un peu trop à la mode, un peu galvaudé, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, et comment être aussi, comment construire ça avec les hommes, évidemment, parce que je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on va construire uniquement dans la sororité entre femmes pour faire bouger les lignes. Donc comment être bien avec les hommes aussi, faire changer leur regard à eux ensemble et surtout pas contre. Donc ça m'a donné beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse et auxquelles je suis heureuse de réfléchir avec qui a envie de réfléchir.
Alors, dernière question, peut-être un peu anecdotique. Est-ce que l'histoire d'amour de Brigitte et Emmanuel Macron a changé le regard souvent impitoyable porté sur les femmes mûres en couple avec un homme de 20 ans, leur cadet?
Je pense que peut-être un peu, et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le couple Macron, c'est ma collègue Sylvie Baumel qui a écrit un livre sur Brigitte Macron qui le souligne, est assez transgressif en fait. C'est fou quand on y pense, un couple comme ça à la tête de l'État. Donc, je pense qu'ils font bouger les lignes, en tout cas sur ce regard-là, parce que maintenant, c'est devenu... c'est plus une question. Enfin, on ne se pose plus la question. Alors, même si Brigitte Macron se prend encore régulièrement des attaques agistes et sexistes, mais en tout cas, ouais, c'est devenu... voilà, c'est comme ça. Et ça fait certainement bouger les choses d'avoir des exemples comme le leur.
Merci beaucoup Marie Charelle d'avoir été notre invitée. Votre livre « Qui a peur des vieilles » est publié aux éditions Les Pérégrines. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianos et Romain Dubrac à la réalisation. On se quitte en musique avec Wooly Lia, Dadju avec Kali, Soul King et Ayman Serrani. من اللي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة ان انا بغيك ونموت على قلبي واللي ليا اوه قريب علي اللو سي اللو جود سا موا جو لامي اللو سي اللو مبوس سا غسنتير كو جو سوي لو سول كوبابل Lundi, nous parlerons des outils pour penser positif et retrouver le bonheur de vivre, tout un programme. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Bon week-end à tous, à lundi, et d'ici là, portez-vous bien.
7 milliards de voisins, c'est fini.
L'épopée des musiques noires.